pensez à vous dimanche, samedi et dimanche. À Rodez, vous savez, il y a un pèlerinage à Notre-Dame de Seignac qui voudrait beaucoup que la communauté vienne.
Établissez-la dans tout le détachement et toute la solitude.
ce n'est qu'un tout petit rien qui s'est interposé dans ses onctions saintes. Et cependant, le dommage qui en résulte est plus grand, plus douloureux et plus déplorable que si l'on jetait dans le trouble et si l'on perdait une foule d'âmes vulgaires qui ne sont pas en état de recevoir des émaux si riches et si variés. Vivrez-vous d'un tableau qui est un chef-d'œuvre d'art et de délicatesse, soit retouché sans goût et sans art par une main maladroite? Est-ce qu'il n'y aurait pas là un dommage plus grand, plus important, plus fâcheux que si on abîmait et perdait une foule de peintures vulgaires? Or, il s'agit ici d'une œuvre très délicate du Saint-Esprit, et elle est gâtée par une main maladroite. Ce que Marc disait à propos des foyers de charité, que les foyers de charité seraient l'œuvre de l'Esprit Saint, et que Dieu se choisirait des instruments, des pères, et que si ces pères agissaient par eux-mêmes,
éloigné des sens et de tout ce que l'on peut penser. L'âme enrichie de cette connaissance
non seulement accomplit une action ridicule, mais s'éloigne forcément du terme. Voilà pourquoi celui qui est parvenu par le travail de ses puissances à la possession de ce recueillement plein de paix auquel prétend tout homme spirituel et qui est la limite où s'arrête l'activité de ses puissances, non seulement accomplirait une œuvre inutile en les mettant de nouveau en activité pour arriver à ce recueillement, mais travaillerait à son propre détriment. Ce serait là un sujet de distraction pour lui et il perdrait le recueillement où il se trouvait. Donc on voit bien ce que Saint Jean de la Croix veut nous dire. Quand le directeur, encore une fois, ne comprend rien parce qu'il est devant une expérience qu'il ne connaît pas, ça ne veut pas dire, hein, faisons attention, parce que ce serait tout à fait contraire à l'esprit de Saint-Thérèse. C'est avec Saint-Thérèse se pose le dilemme, vaut-il mieux avoir un directeur qui est un théologien ou un saint ? Si elle tient un théologien. Donc, il ne faut pas dire, hein, il faut que le directeur ait eu les mêmes expériences que l'âme qu'il dirige. D'abord, ça n'existe jamais, on n'a jamais eu les mêmes expériences. Plus on avance dans l'amour, plus il y a la diversité des expériences d'amour. C'est déjà vrai au point de vue humain, alors infiniment plus au point de vue divin. C'est pas de la montagne où tout le monde passe qui est la même chose. Alors là, c'est tout à fait, il est foulé aux pieds de tout le monde. Tandis que les sommets sont toujours différents. Et le sommet de l'âme, c'est l'amour, et c'est l'amour divin. Alors, ce sommet est peut-être très respecté. Respecter ce souffle particulier de l'esprit, cette onction particulière de l'esprit. Et il ne s'agit pas de revenir à des mœurs humaines actives. Il faut comprendre ça. Mais surtout quand un jeune directeur conscience est directeur de conscience d'une sainte religieuse qui est dans sa congrégation depuis 50 ans, alors il faut qu'il fasse attention de ne pas la malmener. Disant, écoutez, non, vous n'avez encore rien compris à l'horizon. Je vais voir vous conduire. Alors, comme elles sont souvent très respectueuses à l'égard du prêtre, elles se mettent à dire, mais c'est peut-être vrai, j'ai rien compris du tout. Mais plus on est en face, personne d'âme plus contemplative, plus il faut être discret dans un direction spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de se retirer. Pas du tout. Si on vous demande de vous occuper de telle personne après une retraite, c'est ce qui arrive tout le temps. Bien, vous devez dire oui. Sauf s'il y a des raisons majeures pour lesquelles vous devez dire non. Mais normalement, vous devez dire oui. Parce que vous n'avez pas le droit d'un recours au laborème. Vous n'avez pas le droit de laisser quelqu'un qui a été prédication, qui est atteint par votre prédication, comme qu'il a un peu le petit signe, de lui dire non, je ne m'occupe pas de vous. On n'a pas le droit. Et c'est vrai. Mais alors à ce moment-là, il faut comprendre que une âme qui est consacrée à Dieu, et qui toute sa vie a essayé d'entrer dans cette intimité profonde. Il s'agit de se mettre à l'écoute de cette âme. Beaucoup plus qu'à vouloir la diriger. Directeur, être rector, c'est l'Esprit Saint. Et le prêtre, il n'est que l'instrument. Donc le directeur, c'est l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas de prendre la place du Saint-Esprit. Il s'agit d'écouter et de demander à l'Esprit Saint. On est médiateur. Alors quand ça marche bien, le médiateur c'est merveilleux. Quand ça marche mal, c'est beaucoup moins drôle d'être médiateur. Parce qu'on est un peu compressé entre les deux. Et ils arrivent forcément. Ce qu'il y a de plus déplorable pour l'âme, c'est qu'en agissant ainsi d'une manière naturelle, elle perd la solitude et son recueillement intérieur. Par suite, elle perd cette incomparable peinture à laquelle Dieu travaillait en elle. Et ainsi, tout son travail se réduit à battre le fer. D'un côté, elle perd, et de l'autre, elle ne gagne rien. C'est pas très drôle comme situation. Le guide spirituel de ces âmes doit bien considérer que le principal agent, le guide moteur de ces âmes, dans une pareille affaire, ce n'est pas lui, mais l'Esprit Saint, qui ne cesse jamais de veiller sur elles. Ils ne sont eux-mêmes que des instruments pour les diriger dans le chemin de la perfection d'après les lumières de la foi et la loi de Dieu, comme aussi d'après les dons que le Seigneur accorde à chacune d'elles. Voilà pourquoi il doit s'appliquer non à les adapter à sa méthode ou à ses vues personnelles, mais à considérer s'il se rend bien compte, de la voie par où Dieu les conduit, et dans le cas contraire, de les laisser aller leur chemin sans les troubler. On n'est pas obligé de toujours voir, c'est ce que dit Saint Jean de la Croix, et c'est très juste. C'est d'après la foi et l'esprit par où Dieu les appelle, qu'il s'appliquera à les diriger vers plus de solitude, plus de tranquillité, de liberté d'esprit. Il les dilatera de façon qu'elles ne s'attachent, de façon qu'elles n'attachent pas leur sens corporel et spirituel à quoi que ce soit d'intérieur ou d'extérieur, quand Dieu les conduit par le chemin de la solitude. Mais qu'ils ne s'inquiètent pas et ne se préoccupent pas à la pensée qu'elles ne font rien. Car bien que l'âme alors n'agisse pas, Dieu agit en elle. C'est ça qui est très beau. On n'est plus. Donc c'est Dieu qui agit en elle. Mais très bien, on voit très bien que le directeur scrupuleux qui veut avoir des résultats, le directeur actif qui veut avoir des résultats, directeur qui ne comprend rien à ce que c'est que la vie contemplative où il n'y a pas de fruit. Alors il faut voir. Quant à lui, il doit veiller à la porter au détachement et à la mettre dans la solitude et le repos de telle sorte qu'elle ne soit attachée à aucune connaissance particulière, d'en haut ou d'en bas, et n'ait le désir d'aucune saveur, d'aucun goût, d'autre perception ou d'autre perception. Il faut qu'elle soit complètement détachée de toutes les créatures et pratique bien la pauvreté spirituelle. Voilà ce que l'âme doit faire de ce côté, comme le conseille le Fils de Dieu en ces termes, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est appliqué jusqu'au bout. Ce précepte s'entend non seulement du renoncement de la volonté aux choses corporelles et temporelles, mais encore de celui qui concerne les choses spirituelles. Il renferme donc la pauvreté spirituelle dont le Fils de Dieu a fait une béatitude. C'est par la pauvreté que nous nous détachons de nous-mêmes et de tout ce qui est de nous, en comprenant la vanité de toute chose créée. C'est cette vanité de toute chose créée, la béatitude des pauvres, qui est présente dans toutes ces affirmations. Quand l'âme ainsi détachée de tout, qu'elle est dans un dénuement complet, et qu'elle a, je le répète, qu'elle a accompli tout ce qui dépendait d'elle, il est impossible que Dieu ne fasse pas de son être ce qu'il faut pour se communiquer à elle, au moins dans le secret du silence. C'est même plus impossible qu'il ne l'ait au rayon du soleil de ne pas s'illuminer un espace serein où il ne rencontre aucun obstacle. Le coucher de soleil. Donc vous voyez, ça doit vous faire penser à ça. Une âme qui attend Dieu, Dieu répondra nécessairement. Voilà ce qu'il dit. Parce que si on a une bonne volonté, ben, on enlève les obstacles. C'est Dieu seul qui peut évidemment réchauffer notre cœur, réchauffer notre intelligence. Mais si on a le désir d'être transformé en lui, nous sommes sûrs.
Sur la finalité. Ça, c'est l'action directe de la cause principale.
qu'est l'Esprit Saint. Sage, c'est Dieu qui lui montre le chemin, qui la conduit au bien spirituel, en se servant de moyens que vous ne pouvez comprendre, ni l'âme non plus. Ne dites donc point, mais l'âme ne progresse pas, puisqu'elle ne fait rien. Car s'il est vrai qu'elle ne fait rien, je vous prouverai que par le fait même qu'elle n'agit pas, elle fait l'entendement s'est dégagé de toutes ses connaissances particulières, soit naturelles, soit spirituelles. Il avance, et plus il s'en, plus il s'abstiendra de s'occuper de connaissances particulières ou d'actes de compréhension, plus aussi il avancera vers le souverain bien surnaturel. Il faut éviter l'oisiveté, c'est bien évident. Mais cette passivité n'est pas l'oisiveté. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est toujours très complexe, pas facile. Et si on prend matériellement les paroles de Saint Jean de la Croix, ça conduit à des catastrophes. Parce que Saint Jean de la Croix parle pour des âmes qui ont l'expérience. Alors là, très bien. Mais si vous prenez matériellement, c'est comme toujours dans les traités de spiritualité. Si vous prenez matériellement ce que dit Saint Jean de la Croix, vous aboutissez à l'oisiveté. Je veux tourner bouche. Pendant l'oraison, c'est très très simple. J'attends le Saint-Esprit vient. Bon, je me mets dans un état de disponibilité parfaite. Oh, c'est dans un bon fauteuil que je suis le plus disponible. Alors je vais faire mon oraison le matin dans un bon fauteuil. Là, je suis très bien. Je ne crois pas que c'est le Saint-Esprit qui conduit ça. Je ne crois pas. Mais si vous faites l'inverse, alors débrouillez-vous, faites tout ce qu'il vous faut, méditez, faites votre méditation, préparez votre sermon du lendemain, préparez les coups, préparez ses mains. Alors là, à ce moment-là, vous continuez. Il ne sait que méditer. Hein? Parce que c'est vrai, les coups, c'est de la méditation. C'est un raisonnement, c'est la méditation. Il ne sait que méditer. Alors il faut comprendre que c'est l'Esprit Saint seul qui peut, de l'intérieur, faire ce discernement entre l'oisiveté et la passivité. Discernement de l'extérieur. C'est un discernement qui se fait de l'intérieur. Si en effet l'entendement s'est dégagé de toutes ses connaissances particulières, soit naturelles, soit spirituelles, il avance. Et plus il abstiendra de s'occuper des connaissances particulières ou d'actes de compréhension, plus aussi il s'avancera vers le souverain bien surnaturel. Mais me dites-vous, si elle n'a pas de connaissances distinctes, comment peut-elle réaliser des progrès? Et moi je vous dis que si elle en avait, elle n'avancerait pas. La raison, c'est que Dieu, vers qui se dirige l'entendement, dépasse tout entendement. Il est incompréhensible et inaccessible à l'entendement. Voilà pourquoi, quand l'entendement agit, il ne s'approche pas de Dieu. Il s'en éloigne plutôt. Il doit donc cesser ses opérations pour approcher de Dieu. Suivre le chemin de la foi et croire, mais sans comprendre. De sorte, l'entendement arrive à la perfection. Parce que c'est par la foi et non par un autre moyen qu'il s'unit à Dieu s'en approche, plus en ne comprenant pas qu'en comprenant. Ainsi, ne vous affligez pas de ce point, car dès lors que l'entendement ne recule pas, comme cela lui arriverait s'il voulait s'occuper de connaissances distinctes, de raisonnement ou d'autres actes intellectuels, au lieu de rester dans son repos, c'est qu'il avance. Et en effet, il se purifie de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il avait en lui, car rien de cela n'est Dieu, comme nous l'avons dit. Et Dieu ne peut pas occuper quand il s'agit de l'entendement, c'est entrer plus avant dans la foi et dans ces ténèbres, car la foi n'est que ténèbres pour l'entendement. Dès lors que l'entendement ne peut savoir comment Dieu est, il doit nécessairement s'approcher de lui comme un vaincu. Voilà pourquoi il avance d'autant plus qu'il comprend moins. Aussi, son progrès consiste-t-il précisément dans ce que vous condamnez. Cela veut dire que l'âme ne doit pas s'occuper de connaissances distinctes, car elle ne pourrait l'amener à Dieu. Elle serait plutôt un obstacle à son avancement. Mais le raisonnement est très très net. Entendement, c'est raisonnement. Méditer à raisonner, vous perdez du temps. Il faut accepter cette situation très difficile d'être suspendu à Dieu. C'est pas du tout. C'est être suspendu à Dieu. Dépendre radicalement de Dieu. Sans jouir de sa présence. Mais me direz-vous, l'entendement n'a pas de connaissance distincte, la volonté sera oisive et incapable d'aimer. C'est là un obstacle qu'il faut toujours éviter dans la voie spirituelle, car la volonté ne peut aimer que ce qui est perçu par l'entendement. Cela est vrai surtout lorsqu'il s'agit des opérations et des actes que l'âme opère naturellement. La volonté n'aime que ce que l'entendement connaît d'une manière distincte. Mais quand il s'agit de la contemplation dont nous parlons et par laquelle Dieu, comme nous l'avons dit, infuse quelque chose de lui-même dans l'âme, il n'est pas nécessaire que l'âme ait une connaissance distincte, ni qu'elle mette en activité son intelligence. C'est par un seul acte, en effet, que Dieu lui communique lumière et amour tout à la fois. Or, c'est là une connaissance surnaturelle pleine d'amour. Nous pouvons dire que c'est une lumière ardente qui réchauffe, car cette lumière provoque en même temps l'amour. Cette lumière néanmoins demeure confuse et obscure pour l'entendement, parce que c'est une connaissance de contemplation qui, selon l'expression de Saint-Denis, est un rayon de ténèbres pour l'entendement. Saint-Denis, c'est Denis, hein, le pseudo-Denis, c'est le Saint-Denis. Aussi, telle sera la connaissance dans l'entendement, tel sera l'amour dans la volonté. Comme cette connaissance que Dieu infuse dans l'entendement est générale et obscure, et qu'elle ne porte sur rien de distinct, la volonté de son côté aime d'une façon générale, sans aimer un objet distinct présenté par l'intelligence. aussi quand il se communique à l'âme. Il informe également ces deux puissances, l'entendement et la volonté, de connaissance et d'amour. Mais comme il n'en est pas intelligible en cette vie, la connaissance, je le répète, reste obscure. Il en est de même de l'amour pour la volonté. Sans doute, il arrive parfois que dans cette communication, Dieu se donne plus à l'une de ses facultés qu'à l'autre. Il la blesse davantage. Parfois, l'âme reçoit plus de connaissances que d'amour. D'autres fois, elle reçoit plus d'amour que de connaissances. Ou bien, elle ne recevra que des connaissances sans amour. Sans amour aucun, comme aussi elle ne recevra que de l'amour sans aucune connaissance. Voilà pourquoi je dis que si l'âme accomplit naturellement des actes intellectuels, elle ne peut pas aimer sans comprendre ce qu'elle aime. Mais quand il s'agit de ces actes que Dieu accomplit en elle et lui infuse, comme cela arrive dans le cas dont nous parlons, c'est tout différent. Car Dieu peut se communiquer à une puissance et non à l'autre. Ainsi, il peut enflammer la volonté par une touche du feu de son amour, sans que l'entendement n'y comprenne rien. Il en est ici comme d'une personne qui est réchauffée par le feu et qui cependant ne voit pas le feu. Saint Jean de la Croix essaie de montrer cette action de Dieu qui n'est pas toujours en harmonie entre l'intelligence et la volonté. Alors que, selon un rythme humain, oui, il y a une connexion nécessaire entre les deux, tandis que là, il n'y a pas de connexion nécessaire entre les deux. Il y aura des saints qui auront un très très grand amour et au fond, le développement du côté de l'intelligence qui sera fait. Et il y aura l'inverse aussi. Pour montrer ça, la gratuité de Dieu, et montrer que la gratuité de Dieu, elle agit selon le bon plaisir de Dieu. Aussi, la volonté se sent-elle très souvent enflammée, attendrie, toute transportée d'amour, sans rien savoir, ni rien comprendre. C'est ça le propre de cet amour.